les écrans philosophiques, un cycle conçu et organisé par la Maison Populaire, le Collège International de Philosophie et le Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 20 octobre 2010, à l'issue de la projection du film « Ne me libérez pas, je m'en charge » de Fabienne Godet, France 2009. Présenté par Gérard Bras, professeur de philosophie en première supérieure, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, en présence de Fabienne Godet et de Michel Vaujour. Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
Prolonger, réfléchir avec vous, réfléchir avec Fabienne, réfléchir avec Michel sur ce que ce film peut dire. Je le ferai en 6 points, 3 qui concernent peut-être plus Fabienne, 3 qui concernent le sujet du film, c'est-à-dire Michel Vaujour. Le film de Fabienne, c'est un documentaire, je ne sais pas si c'est utile de dire que c'est un documentaire et quel intérêt il peut y avoir à dire que c'est un documentaire. C'est un film, c'est un vrai film. Et c'est pour moi un film vrai qui donne à penser au même titre et quelquefois plus que pas mal de films de fiction. 3 aspects proprement filmiques caractérisent pour moi cette dimension. Premier point donc que je voudrais aborder, ce qui me paraît être un aspect essentiel de la pensée du film, se dit dans cette très belle séquence, pour moi, séquence du début, où on voit Michel en voiture, traversant un paysage champenois probablement, les yeux fermés, et puis, sur la droite de l'écran, en incrustation, une autre image de Michel, lors d'un procès, où on le voit très, très fier, certains diraient sans doute arrogant, menotté. Image de télévision, image médiatique. Et je crois que cette séquence dit tout de suite fortement qu'on a affaire à 2 régimes d'image. Le régime d'image des médias, qui identifie, qui donne une identité, l'identité du grand banditisme, et qui vous colle une étiquette à la peau et qui vous la colle en quelque sorte comme une substance définitivement. Et puis l'image du cinématographe, j'aime bien ce mot de cinématographe que Bresson utilisait systématiquement, l'image du cinématographe, c'est-à-dire l'image d'un processus où, à la place d'une identité figée immobile, on va voir naître finalement un sujet d'une image d'identité à l'image qu'il faut déconstruire, à cette image qui déconstruit l'identité, pardon, d'une image donc qui fait advenir un sujet. Et ça a été, je crois, pour moi tout de suite le propos profond du film de Fabienne. Deuxième point, deuxième aspect dans ce film, c'est ces séquences qui, à l'intérieur du film, présentent des paysages de nature, quelquefois simplement parce que la voiture traverse la campagne, ou aussi plus profondément, paysages où on voit Michel se promener à l'orée d'une forêt avec un ami, où il ne se dit rien. Il ne se raconte rien, mais on est là, dans la nature. Nature qui n'est ni un décor, ni l'enracinement dans la terre des origines, qui à nouveau assignerait à une identité. Mais qui est une manière de dire, comme ça finement, que l'homme est partie de la nature, que cet être dans la nature n'est pas le retour à un paradis perdu, mais qu'il s'agit là de trouver comme un principe de vie sans lequel il n'y a pas maîtrise de soi, renoncement à une sorte de domination. L'homme n'est parti de la nature, il n'est pas un empire dans un empire, dirait Spinoza. Et c'est pas là. Ce n'est que la première fois que je citerai Spinoza dans cette soirée. Troisième aspect qui m'intéresse dans le film de Fabienne, là je ne citerai aucune séquence particulière. Je ne citerai aucune séquence particulière, mais c'est ce que j'appellerais volontiers la tonalité d'ensemble du film. Je peux essayer d'en rendre compte par quatre points comme ça rapidement, une sorte de survol du film. Ce très beau prologue, écran noir, où on entend la voix de Michel, on n'a rien vu encore, début de cinéma étrange, que de commencer par l'écran noir avec une voix, qui dit deux choses apparemment contraires. Première chose, dans tout vivant, j'aperçois le mort qu'il sera. Deuxième chose, encore plus étonnante, personne plus que moi ne peut autant remercier la vie. Cette étrangeté va s'éclairer petit à petit, et le propos du film, au fond, c'est de nous faire ce parcours qui éclairera l'étrangeté de ces propos. Deuxième moment du film, si j'ose dire, si je fais ce résumé comme ça en perspective cavalière, des séquences d'autobiographie. Séquences avec la mère de Michel, qui sont cadrées larges, séquences avec des amis, où on parle de Michel. Séquences d'autobiographie vues avec une certaine distance. Et puis, troisième temps, en quelque sorte, du film, la caméra de Fabienne va cadrer de plus en plus serré, jusqu'à cadrer sur le visage, les yeux, pour faire entendre l'essentiel, ce que j'appellerais une voix avec un X. On parlera de voix avec un E dans d'autres moments, mais une voix avec un X, une voix intérieure, celle de, non pas simplement d'un individu étiqueté, identifié, mais d'un sujet, de quelqu'un qui va faire récit de soi. Et au fond, l'objet du film, me semble-t-il, la tonalité qui transparaît de cela, c'est d'exposer autant qu'il est possible, autant qu'on puisse l'exposer en extériorité, d'exposer l'intime de l'intime. Et l'intime de l'intime, c'est exactement le contraire de l'obscène, c'est exactement le contraire des anecdotes biographiques obscènes qu'on pourrait raconter. C'est effectivement ce mouvement de la pensée qui est le mouvement de l'émancipation. Et si la caméra de Fabienne est arrivée à faire cela, c'est parce que je crois ce qui transpire du film, ce que j'appelle cette tonalité, c'est la rencontre entre Fabienne et Michel qui a certainement dû être un événement, en tout cas le film expose que ça a été un événement, sur fond d'une autre rencontre, tout le monde a vu le film, ce qui est la rencontre de Michel et de Jamila, et que le dialogue est possible parce qu'on n'est pas dans une caméra qui regarde froidement et objectivement, mais on est avec une caméra qui dialogue avec la personne qui est sur l'écran. Et c'est ce dialogue qui, à mes yeux, fait la beauté et la profondeur du film. Ce dialogue, il a, je crois, une portée universelle. Et c'est cette portée universelle, sur cette portée universelle, que je voudrais m'attarder maintenant, qui est le cheminement dont les paroles de Michel Beaujour font récit. Quatrième point, quatrième aspect, donc, je commence, j'avais dit trois points pour Fabienne, trois points pour Michel. Quatrième aspect, De quoi Michel fait-il le récit? Assez banalement, on dirait une autobiographie. Qu'est-ce que dit cette autobiographie? Ce qui me frappe, c'est qu'elle se trame de hasard et de nécessité. Elle mélange hasard et nécessité, interdisant toujours de se dire « Ah oui, mais que se serait-il passé si ?» Que se serait-il passé si chacun pourrait s'amuser à faire jouer le si à l'endroit qu'il voudrait? Et en même temps, ce tramage de hasard et de nécessité, c'est tout le contraire d'un destin pré-écrit d'avance. Enchaînement nécessaire, infléchissement hasardeux, absence de destin. Si on en reste là, on est au fond dans la banalité. C'est pas ça que le film expose. C'est pas cela que Michel dit. Ce que je pense qu'il dit, c'est l'acte par lequel il s'affirme capable d'en faire récit. Comment ce récit est possible? Au fond, il est possible parce qu'il s'énonce contre la prison. Contre aux deux sens de contre, en opposition avec, et tout contre. La prison étant en quelque sorte la machine qui va rendre incapable de faire récit de soi. La machine qui va déposséder le soi de la possibilité de faire récit de lui-même. Ce qui est peut-être la forme suprême de l'aliénation. La parole du taulard est comme telle empêchée, ou alors sur le mode du remords, sur le mode du regret. Et ce qui m'a frappé tout de suite en voyant le film, et plus je le vois, plus je suis frappé et intéressé, attiré par ça, c'est l'absence du moindre iota de regret, du moindre iota de remords dans le propos de Michel. Tout assumé sans remords. Tout assumé sans remords. Encore Spinoza, excusez-moi, le remords est signe d'une âme impuissante. Cinquième aspect. Cinquième point, qu'est-ce que c'est que cette liberté sans remords? Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui s'affirme sans remords? Je la vois s'enraciner dans deux dimensions. Premièrement, l'exigence de se faire vivant, c'est-à-dire d'être toujours fidèle à soi-même. Et c'est le point sur lequel évidemment, tout va pouvoir se décider. Deuxième aspect, méditation sur la liberté apparente et sur la liberté réelle. Et là, j'avoue mon admiration pour la profondeur des propos de Michel dans le film, où il montre que la liberté se perd dans la jouissance de la toute-puissance. Et c'est cette découverte de l'opposition entre la toute-puissance et la liberté authentique qui ouvre la voie, qui va permettre, me semble-t-il, justement l'émancipation. Comment cette voie est-elle ouverte? Il n'y a pas de théorie à faire, mais le propos de Michel en expose au fond l'épreuve ou l'expérience. C'est mon dernier point. Deux aspects qui évidemment sont au cœur de son propos, de son récit. La méditation du yoga et la rencontre amoureuse avec Jamila. Sans la méditation, sans cette méditation solitaire, sans ce voie, sans cette voie de la réflexion sur soi, sur la conscience de soi, pas de liberté d'esprit possible, et sans la liberté de l'esprit, pas de liberté possible du tout. Je vais très vite, mais je crois que le thème est bien là. Mais pas de liberté non plus, où cette liberté n'est qu'une absurdité, si elle perd son sens. Et c'est effectivement encore un hasard, celui de la rencontre qui va pouvoir donner sens. Voilà, en survol, quelques réflexions que le film provoque en moi, et en guise de point d'arrêt, je voudrais dire que ce film et les propos de Michel, au fond, m'ont conforté dans mon désir et dans mon amour de la philosophie, parce qu'on a affaire là à un propos qui est authentiquement philosophique, qui va au-delà du discours. La philosophie est discours, mais si elle n'est que discours, elle n'est rien. Et c'est un petit peu ce que, dans tes propos, Michel, tu as pu nous apprendre. Merci. Ah.
Vous me posez des questions, aucun problème, je réponds tranquillement. Les questions que vous voulez, comme vous sentez, il n'y a aucun problème. Ok ? Tranquille. Et juste un petit truc, la méditation, ce n'est pas ce que tu viens de dire. La méditation, toi, c'est vraiment, on voit que tu es un philosophe, toi, c'est la réflexion sur quelque chose. Non, c'est le vide, le rien, juste la conscience d'être. La méditation, c'est rien. C'est ça. Et j'ai jamais réfléchi à ce que je... Comme ça. Les réponses sont attendues. Ok. Ce que vous voulez, quand vous voulez. Puis il y a Fafa aussi, là. Fabienne. Et comme vous sentez.
Oui, j'aurais aimé que vous développiez un peu la phrase que... Vous dites quand vous dites que le sens de votre vie vous l'avez trouvé dans le sens de la mort.
Oui.
Et je me demandais si en fait votre liberté ne venait pas d'une conscience de plus en plus nette du présent.
Oui.
Voilà.
Ou du moins la conscience de la mort, une conscience. Ah, chaque instant qu'on vit, là, ici, maintenant, chaque instant qui nous est, c'est vraiment un cadeau, quoi. Chaque instant, ça arrivera plus jamais, quoi. Je veux dire, tout ce qui nous a offert est précaire. Tout ce qu'on vit est précaire, très précaire. Et tout est superbe, quoi. Vraiment, je crois très profondément que tout est superbe. Notre seul problème, quoi, c'est qu'on... Je crois qu'on ne sait plus le voir, on est un peu trop habitué à vivre, quoi. Mais on trouve que tout est normal et la normalité est très relative. Et je vous invite vraiment. Hier matin, j'ai vu une femme. Je traversais le. J'allais au RER, quoi. Et j'ai vu une femme se faire jeter par une voiture, mais mortelle, quoi. Elle est restée par terre, séchée. Je ne sais pas si elle est morte ou pas, parce qu'il y a les flics qui sont arrivés, quoi. Je suis passé, je l'ai regardé. J'ai regardé son regard, quoi. Et si ça tombe la veille, elle se pourrissait la vie depuis des mois, peut-être des années, avec des conneries de merde. Voilà. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se dit, putain, c'est con, quoi. Alors c'est mieux de goûter chaque instant qui nous est offert, quoi. Je crois très profondément que ce qui fait la joie, une certaine joie intime, quoi. Ce qui, moi, je suis bien dans ma vie, vachement bien, j'ai besoin de rien en vérité. J'ai quelques petites choses parce que je suis avec Jamila et elle n'est pas comme moi vraiment, quoi. Mais Le simple fait d'être vivant, c'est bien. C'est vachement bien, quoi. Voilà, c'est tout. Posez-moi plein de questions là-dessus, je pourrais vous répondre, parce que là, si vous me laissez continuer, ça va devenir assez obscur pour beaucoup. Mais j'ai perdu un peu le fil de votre question, donc je vous réponds grosso modo. Je crois que la question que vous avez posée, c'est... Ouais, je crois que la conscience profonde de notre mortalité, je veux dire la conscience vraie, sentie, vivante, dans nous, dans notre ventre, vous permet de vivre le présent. Vraiment. Voilà. Vous accueillez le présent. C'est cadeau. La seule promesse, c'est la mort. Voilà. C'est vachement bien. Bon, c'est l'eau à apprendre, hein. J'ai mis très longtemps. Une fois, je ne fais pas de débat comme ça. Ah ouais? Ah, mais la pire des tôles, c'est ça, hein? Non, mais la pire des tôles, c'est ça, moi. La plus belle, c'est la pire des tôles, la tôle qu'on a dans la tête. Moi-même, je me suis enfermé à un moment donné dans une tôle pas possible, quoi. J'avais une muraille dans la tête. Une muraille qui me séparait de tout ce qui était vivant. Voilà, en gros, ouais. Et... Ouais. On peut s'enfermer dans une tôle qui nous sépare du présent, quoi. Qui nous sépare de la vie, qui nous empêche d'accueillir la vie. Et ça, c'est la première des lois, c'est de s'en dévader. Voilà. Vraiment, 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 vraiment. Bon. Tout ce qui est passé est mort. C'est les profondeurs de la mer, on n'est que la surface, ici, maintenant. Vraiment, voilà. Je crois.
Je suis un petit peu émue de m'adresser à vous, mais pendant tout le film, je me suis posé la question, mais comment cet homme, qui a passé tant de temps dans le silence le plus total... et l'absence de dialogue, comment fait-il pour s'exprimer ainsi? Et donc, il y a peut-être une question qui va vous faciliter la réponse, c'est à quel moment avez-vous été capable de parler?
Pareil, j'ai parlé, j'avais un nom. Désolé. Je joke un peu parce que cette question-là, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Et en fait, au fil des débats, on a fait pas mal de débats avec Fafa avant la sortie du truc, quoi. Et elle était récurrente. Et ce qui est vachement bien dans ces trucs, c'est que ça finit par me forcer à me poser à moi des questions, quoi. Et donc, je me suis posé la question. Vous avez beaucoup lu des conneries comme ça, quoi. Non. Je crois que c'est parce que ce dont je parle, ce que j'exprime, ce que Fabienne m'a permis d'exprimer, parce que si j'ai pu parler comme ça dans ce truc, c'est parce que... Ouais, parce qu'avec Fabienne, en fait, c'était un truc, on s'est assis chacun à côté de la table, puis on s'est mis à papoter, quoi, comme on avait parlé d'autres fois, pareil. Comme ça, entre potes, quoi. Et voilà, nature... Sinon, ça n'a pas la peine de parler, quoi, en gros. Et donc, ouais, c'est parce que ce que je dis, ce que j'exprime, c'est ce que je porte, ce qui me fait au plus profond du profond. C'est ce qui m'a construit. C'est pas ce que je sais, ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris en lisant un bouquin ou une connerie comme ça, quoi. Ça, c'est rien, ça. Un souffle d'émotion, et ça n'existe plus en vous. Moi, ça m'a construit, c'est inscrit au plus profond de ma chair. Comprenez? Parce que ce que j'ai appris dans l'expérience du vivant. Quoi. Dans la solitude, le silence, la méditation, mais la vie, juste la conscience d'être qui en vient. Quoi. En inconditionné. Voilà. Ouais. Et donc, ça me fait, ça me porte, ça voilà. C'est pour ça que ça vient naturellement, quoi. Voilà. Voilà, et puis... Puis je crois qu'il ne faut pas s'embarrasser la tête avec des tas de conneries. Parce que ça vous... moi, ce qui est bien, c'est que je m'embarrasse au minimum, quoi. Je m'embarrasse la tête au minimum, ce qui fait qu'il y a de la place pour... Les choses sont bien claires, quoi, en gros. Hein.
Est-ce que je peux vous demander encore une question ?
Oui, tout ce que vous voulez.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, c'est une question, hein, c'est, que vous avez été capable de penser sans parler ?
Ah ouais ?
Oui, c'est, une, c'est assez,
ah ouais, ouais.
C'est quelque chose. Hein.
Ouais. Et c'est plus que penser. C'est... Vous prenez conscience des choses, mais vraiment des choses très, très profondes quand vous êtes seul, absolument seul, c'est-à-dire rien qui vous distrait, qui vous écarte, et que vous refusez toute chose qui peut vous écarter de. Qui peut vous faire oublier, quoi. Comme ça, face à un avenir qui n'existe pas, qui pour moi était une acceptation profonde de la mort d'une façon ou d'une autre, quoi. Et donc. Votre condition humaine pure, indépendante de tout, parle, elle, et vous dit ce qui compte vraiment pour vous, par-delà tous les conditionnements, pour vous, voilà, et je crois pour tout être humain, quoi, par-delà le conditionnement.
Qu'est-ce qui fait justement qu'on ne bascule pas dans la folie et qu'on s'en sort, entre guillemets, enfin, c'est un mot peut-être un peu résume les choses, mais parce que 17 ans en pensant dans l'isolement avec le silence, etc., on peut carrément perdre pied et partir dans une autre direction. Qu'est-ce qui fait qu'on prend justement le chemin que vous avez aujourd'hui ?
Mais qui vous dit que je n'ai pas basculé dans la folie ? Je crois que parfois, la folie et moi, on... franchement, on était un peu loin. Il y a des moments... Mais encore faut-il... Mais ça, c'est... je plaisante plus, là. Tout est vachement relatif, quoi. Et là, je plaisante plus. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la folie, quoi, hein? Qu'est-ce que vous appelez, vous, la folie par rapport à la norme, quoi. Mais...
En termes de réadaptation à cette vie-là,
ah oui, de ce conditionnement-là, j'ai réappris doucement, moi quand même. En fait, j'ai dû réapprendre à fonctionner normalement, avec en plus l'engrais de ce que j'avais appris. Alors, tu parlais de liberté. Un jour, j'en suis même arrivé à penser que la liberté ne pouvait pas exister à partir du moment où le concept de liberté existait, quoi. Vous comprenez ? Je voyais là où j'étais, il y avait à la fin où j'étais, il y avait une chouette hulotte qui se posait tous les soirs sur un poteau. En plus, on mettait des poteaux avec des câbles pour empêcher les hélicos de descendre. Il y a une chouette qui se mettait là tous les soirs. Bon, c'était la deuxième période de la détention où je travaillais à l'écriture, etc., quoi, pour sortir les temps mains. Quand j'ai décidé que les choses changeraient. Les choses seulement, moi pas. Voilà, c'est ça. Parce que je suis comme j'étais avant. Mais avant, le combat se portait vers l'extérieur. C'était pour moi quand même, mais vers l'extérieur de moi. Maintenant, le combat est avec moi. Ça continue. Mais quand je voyais cette chouette, je la regardais. Elle était là, paisible. Elle surveillait un terrain de foot qu'il y avait un peu plus loin, où il y avait des mulots. Et elle était libre. Vraiment. Parce qu'elle ne savait même pas qu'elle s'appelait une chouette, quoi. Elle est dans l'absolu, elle est par le monde tout. Voilà. folie. Moi, la folie, putain, la folie et moi, on a fait l'amour pendant des années. Mais c'est pas inintéressant. Vous savez, tout en haut des grandes traditions, il y a un moment où, dans cette évolution, vous marchez nécessairement sur un fil. Où d'un côté, c'est la folie, et de l'autre côté, c'est l'illumination. Voilà. Parce que là, vous perdez tous vos pères. Voilà. Voilà. On peut sombrer, ouais. On peut sombrer.
Bonsoir. En vous écoutant, je pense à des tas de choses. Et c'est vrai qu'on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est ce qui vous a donné, ce qui vous a nourri, puisque vous avez cherché en vous la force qui vous a donné une certaine sagesse. Et je pense aussi à un prisonnier très célèbre qui s'appelle Nelson Mandela et qui est sorti de prison aussi avec une force exceptionnelle, à tel point qu'il est devenu président. Et je pense que... Et ce que je voulais savoir, c'est que... Est-ce que ça
non, me... je ne serai pas président.
Non, je ne m'en fais pas d'être président, mais est-ce que ça vous est arrivé de penser à ce personnage qui est très charismatique et de vous dire qu'il est devenu ce qu'il était en passant des épreuves auxquelles vous avez éprouvées, quoi?
J'aime pas, mais je sais pas, mais j'aime bien les hommes qui sont fidèles à eux-mêmes.
Oui, c'est ça. C'est...
Donc, tranquille, quoi, aucun problème. Ouais.
Comment vous êtes rencontré avec Fabienne Bollé? Qu'est-ce qui a fait cette rencontre?
Ah ben, Fabienne, oh là, mais je vous la passe. C'est à vous.
Alors, je fais un premier film qui s'appelle Le Sixième Homme, qui est un documentaire sur un flic de l'anti-gang qui a pris 5 ans, a été condamné à tort pour une affaire que je ne vous raconte pas pour l'instant. Et en fait, ce gars-là me dit, je lui dis, qu'est-ce qui fait qu'on tient 5 ans en étant innocent en prison ? Et donc, il me dit, il y a eu mon père, et puis il y a eu, contre toute attente, quelqu'un qui s'appelle Michel Vaujour, que j'aimerais que tu rencontres. Et donc, c'est comme ça que je suis amenée à rencontrer Michel, garde de Lyon, et pour lui demander s'il accepte de faire partie de ce documentaire. Il vient de sortir de prison, il y avait quelques mois, je crois que tu étais sortie. Et puis, on fait ce documentaire. Et j'ai 5 heures de rush. Dans le film, je vais en monter 3. Mais c'est 5 heures de rush, en fait, que je vais me passer, me repasser. Et que des gens qui ont vu ces 5 heures de rush me demandent à voir et à visionner régulièrement. Dont notamment une personne qui, à chaque fois qu'elle venait chez moi, me disait : « Je voudrais revoir les 5 heures de rush parce que ça me fait un bien fou. » Et puis en fait, tous ceux qui avaient assisté à ces 5 heures de tournage étaient tous un peu comme moi, c'est-à-dire surpris de rencontrer quelqu'un comme Michel, qui était à l'inverse de... Michel avait 27 ans de prison, Dominique en avait fait 5, et il y avait en face deux hommes qui étaient liés par une amitié très forte, un qui était du côté des voleurs et l'autre du côté des gendarmes. Et en même temps, il y avait Dominique qui n'arrivait pas à se remettre de ces 5 ans-là, qui allait mal, et Michel qui sortait et qui avait l'air d'aller super bien, qui avait la pêche. Et voilà, et du coup, en fait, assez vite, en fait, au bout de certains temps, comme cette rencontre ne me quittait pas, j'ai... Je me suis arrangée pour revoir Michel à des occasions. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, je me disais, bon, bah, il faut absolument faire un film, il faut absolument lui donner la parole, il faut absolument qu'il puisse développer, en fait, pas sur 3 minutes, mais sur vraiment une longue durée. Et voilà, et j'ai donc un jour appelé Michel et il était d'accord pour faire ce film. C'est tout bête.
Et pour Michel, c'est quoi la rencontre avec la méditation, le yoga et...
Le cœur de ma vie.
Oui, mais comment? Comme ça, par wow. L'intérieur, juste?
Non. Au départ, c'était un outil. C'était vraiment un outil au départ. Au départ, c'était ce qui m'avait mené au quartier de haute surveillance, un endroit où je ne pouvais plus m'évader, quoi. Selon les capacités que j'avais à ce moment-là, c'était mon impulsivité. Et vu la situation dans laquelle je m'étais mis, j'avais une belle envie de mourir, quoi, vraiment. Et donc, il fallait que je m'évade. Je ne pouvais pas m'évader en fonction de ce que j'étais à ce moment-là, de mes capacités, quoi. Et voilà. Je me suis mis à travailler le yoga pour presque par hasard. Bon, au départ, je travaillais. J'étais plein de sport pour évacuer mon stress, quoi. Toute la journée, je faisais que ça. Seul du matin au soir, je faisais que ça. Et un jour, je me suis tordu un petit peu le pied. Je ne pouvais plus bouger. J'ai arrêté. J'avais acheté un petit bouquin de yoga pour le côté élasticité musculaire, quoi. J'avais mis de côté tous les autres aspects du yoga, quoi. Et comme je pouvais plus bouger, j'ai pris mon petit bouquin et que mon angoisse me poussait à faire quelque chose, j'ai commencé à faire des respirations, des choses comme ça. Et j'ai trouvé une certaine détente. Ça commençait à m'intéresser, je suis entré dedans petit à petit et j'ai découvert une véritable discipline. Je suis entré en yoga comme en autre religion, ouais. Mais côté fanatique, quoi. Et oui. Et ce qui fait qu'au bout de quelques mois, il n'y avait plus que le yoga qui existait, tout devenu yoga, parce que le yoga, c'est pas seulement quelques asanas et des postures que l'image classique du yoga. Le yoga, il n'y a pas de yoga sans tous les aspects du yoga. Sinon, c'est un stretching amélioré. Et donc, j'appliquais tous les aspects. Et pour moi, le yoga, c'est devenu. En fait, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que le yoga, c'est un ensemble de techniques psychophysiologiques qui vous permettent de vous sculpter vous-même en fonction de l'archétype vers lequel vous vous projetez. Et je travaillais à ça 24 heures sur 24. Et l'archétype vers lequel je me projetais, l'archétype dont j'avais besoin pour m'évader, c'était plutôt celui du kamikaze. Et on ne décide pas ça du jour au lendemain. On se fait, on se transforme méthodiquement. Tout devient exercice. Chaque chose devient exercice. Chaque instant devient exercice pour s'éprouver, pour se mesurer, pour se faire. Et on devient ce que l'on fait, vraiment. Quand on est capable de renoncer à tout pour ça. Voilà. Après, j'ai fait du vrai yoga. C'est-à-dire la même chose, mais sans espoir de... Sans espoir de gain. Le faire pour le faire. L'être pour l'être. L'instant pour l'instant. Et ça m'a fait découvrir d'autres choses. Et je me suis servi des mêmes outils pour détruire ce que j'avais construit et reconstruire ce qui était nécessaire pour que je sois libéré. Voilà. Et j'ai fait tout ce qui était à faire pour ça. Voilà, comme je l'ai fait, comme je l'avais fait avant pour l'évasion. En toute chose. C'est une grande tradition. Mais toutes les grandes traditions en haut se rejoignent. Il n'y a que la forme qui change. Que la forme, c'est tout. La forme dépend de la culture, qui elle-même dépend de la tradition, etc. Quoi. Bon. Mais toutes les grandes traditions, en gros, c'est la même vinaigrette. Quoi. Et ça, le même goût ressort. Solitude, silence, ascèse, pratique. Au bout du chemin, c'est tout pareil. Voilà. Certainement qu'un moine zen ressemble beaucoup à un trappiste, etc. Pourtant, la forme n'est pas la même. Mais en fait, la prière, ce n'est que... La prière, fondamentalement, pour moi, c'est ce qu'on appelle de la méditation saguna, c'est-à-dire avec support. Nirguna, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le vide. Voilà.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre une joie mystique, par exemple, dans vos...
Mais c'est presque tous les jours. Presque tous les jours. Et... Ouais. Ouais, je sais pas. Je venais tout à l'heure... Quand tu te lèves le matin, quand tu te réveilles plutôt, c'est mieux. T'es heureux ? Franchement, t'es bien, quoi, t'es content ? Quand tu te couches ce soir, essaye de faire en sorte d'être tout aussi content le soir. Je te jure, il n'y a rien qui change, rien de différent. Et entre les deux, moi c'est ça, quoi. Voilà, je suis bien. C'est tout, je suis un ravi. Tu vois.
Donc ces ravissements vous consolaient en quelque sorte.
Ah non, moi j'ai pas besoin de consolation. Non, c'est là où tu crois que j'ai une consolation, à mon avis, toi tu aurais pleuré, tu vois. Pas de consolation. C'est pas une consolation. Tu peux être en extase simplement parce que ce qui est beau, c'est magnifique, c'est super. Voilà, c'est magnifique, voilà. Et être toi-même personnellement dans une situation où les gens normaux pensent que franchement tu devrais t'effondrer, quoi. Voilà. Et non, c'est pas ça, je vais te dire. Merci pour tout. Alhamdoulillah, 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 moi. Merci pour tout. Tous les matins, je dis merci, quoi. Franchement, c'est super, on est vivant. Vraiment, je te jure, tu devrais crier de joie. Non, mais je plaisante pas, faut pas rire, je suis sérieux, vraiment sérieux. Tu sais, l'histoire de la mort du cygne qui danse, là, tout ça, je dis avant de mourir. Il danse super bien avant de mourir, tu vois. Parce qu'il se rend compte que c'est beau, quoi. Parce qu'il respire beaucoup de temps. Tu vois. Ce qui est vachement chiant, c'est de se rendre compte au dernier moment, quand il n'y a plus beaucoup de temps, tu vois. C'est un peu chiant, quand même. Et tout ce qui, entre-temps, t'aura fait chier et t'aura empêché de vivre normalement. Puis là, en tant que tu l'auras oublié. Alors, il n'y a pas besoin de consolation. La consolation, non, il n'y a pas besoin de consolation. La consolation, c'est bon pour les enfants, quoi. Les choses sont comme elles sont. C'est bien, c'est tout. Tout est bon, je t'assure, tout est bon, voilà. Au moins. Tout est exercice. Je t'entends pas là.
Il y a une réflexion que tu fais pendant le documentaire, c'est notamment de dire gendarme et voleur, je refuse de rentrer là-dedans.
Ah ouais, je m'en fous.
Et de faire un parangonisme qui pour moi, gendarme et voleur, c'est du même côté. Et toi, tu refuses de rentrer là-dedans et en quoi ça a joué ça ensuite dans ton parcours?
Oh, moi, je m'en fous. Gendarme voleur, par exemple, de Louis Cloiseau, c'est un expert que Fabienne parlait tout à l'heure. C'est un pote à moi maintenant. C'est un mec de l'anti-gang. À l'époque, il aurait pu me mettre 2 balles dans la tête ou j'aurais pu en mettre 2, quoi. À mon avis, je tire mieux que lui, donc c'est moi qui aurais gagné. Ah bon, l'ami.
Mais t'as tout un discours
mais...
qui est de refuser de.
Oui, j'ai pas besoin de m'enfermer dans les images ni quoi ni qu'est-ce. Le mec, il est flic, c'est son problème, j'en ai rien à foutre. Tant qu'il se mettait pas devant moi, je m'en foutais, quoi. Tu vois, franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai aucune notion, parce que j'ai trouvé que seul, certainement, puis franchement, je pense que j'ai évité une aliénation de plus, quoi. J'ai aucune notion des machins sociaux, des choses comme ça. Franchement, ça me fatigue, quoi. Je sais pas m'emmerder avec ça, quoi. On parle de ça dans la comédie sociale. Quand on est autour d'une table, entre mecs qui ne se connaissent pas beaucoup et qui se présentent socialement, quoi. Tu vois, c'est une forme indirecte. Quand on est seul, chez soi, à poil, dans la salle de bain, tranquille, ou ailleurs d'ailleurs, franchement, t'en as rien à foutre, quoi. Oui, non ? Alors, pourquoi tu t'emmerdes à dire des conneries après ? Faut pas. Parce qu'après, vraiment, on devient ce qu'on fait. Faut être. Faut dire comme on pense, quoi. C'est tout. Le problème qu'il y a, c'est ce qu'ils appellent la dissonance cognitive. Tu tends à te rapprocher du discours général, quoi. Faut pas.
Oui, j'ai une question à vous poser. À un moment dans le film, je ne sais plus à quel moment c'est,
okay.
Vous dites « je suis mort ».
Ouais.
Et il me semble qu'il s'agit d'une part de soi qui devrait être vivante et qui n'est plus vivante. Ouais. Est-ce que, j'aimerais savoir où vous en êtes maintenant et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette mort ?
Mais je suis le reflet. J'ai repensé à ça, cette question-là me l'a posée plusieurs fois. Je suis le reflet d'une conscience si profonde de notre mortalité. Vous comprenez ? Sans cette conscience absolue de cette mortalité, je ne serais pas aussi vivant.
Mais j'ai l'impression qu'il y a la mort qui nous attend tous.
Ce n'est pas une impression, c'est une certitude, ça.
Non, non, je ne ris pas du tout. Je ne trouve pas ça drôle.
Vous avez tort.
Non,
si.
Il y a une chose que je voudrais préciser, parce que ça me concerne aussi, flûte, pour ne pas dire autre chose. Cette mort, il me semble que, quand vous parliez des murailles à l'intérieur aussi,
ouais.
C'est pas la mort... fait que notre corps doit mourir.
Oui.
C'est comme si quelque chose de profond de notre être n'était plus là.
Oui.
Et c'est ça dont je sais pas, oui. qui me semble capital.
Ben c'est mon innocence qui est morte.
Okay.
Une innocence, bien sûr. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut pas mourir avec vraiment, quoi. Mais je suis tellement ancré dans cette conscience de la mort que je reçois la vie très fort, quoi. Un peu comme une éponge sèche boit l'eau, quoi. Un peu comme un désert boit l'eau. Vous comprenez ? Voilà. Et il pousse des belles fleurs, pousse des arbres, voilà. C'est.
D'accord.
Si je laissais pas pousser. Je dirais pas quoi. Il faut laisser pousser de toute façon, même. Faut pas en faire une maladie d'abord. C'est pas un jeu de mots, mais c'est bon en vrai. Je plaisante pas, faut pas en faire une maladie quoi. Et je veux dire, ça arrive à tout le monde depuis longtemps quoi.
Hein. Et moi, c'est parce que si j'en parle, c'est quand je dis que ça me concerne.
Oui, j'ai compris.
Je me rends compte que vous avez trouvé le chemin de la vie par cette ascèse que vous dites par le yoga. Moi, je peux dire que cette année. J'ai fait un mémoire sur le mal, un mémoire de philosophie, littérature et philosophie. Et c'est par l'écriture de ce mémoire que l'être que je croyais mort en moi, et qu'il était, a retrouvé le chemin de la vie.
Oui.
Bon. Simplement, ce que je pense, c'est que nous avons des voix V-O-I-E-S, différentes, pour trouver le chemin de la vie.
Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, Jamila, c'est une férue de philo, et moi, je ne suis que dans le ce vivant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Que dans l'expérience du ce vivant. Du vivant. Appelez ça comme vous voulez. Et donc, en fait, pendant 5 ans, on a échangé, Jamila et moi. Moi, selon les fruits de mon expérience. Et elle, selon les lectures. Voilà, les réflexions. Mais ça m'a forcé à me poser des questions quand même. Et j'ai même, et c'est là que c'était vachement intéressant, parce que j'ai rencontré des philosophes, enfin j'ai vu des bouquins de philo, où le mec, avec son intellect, il arrivait à exprimer des choses que je n'ai rencontrées que dans le silence. Oui.
Et moi, j'ajouterais dans le silence.
C'est bien. Et donc, ça a rehaussé un peu la philosophie à mes yeux.
Mais attention, si on dit que la philo, c'est le chemin de l'intellect pur, c'est nul.
Mais c'est
complètement
ça,
nul.
Je ça dirais... doit être vécu. Si voilà. C'est pas vécu, c'est du vent, c'est du bourrage de tête, quoi.
Et pour moi, ça a été vécu, c'est vécu dans l'écriture.
Ah ben oui.
Et
oui.
L'écriture, c'est soi. Et ce n'est pas le voisin, ni...
Oui, mais moi, je préfère la philo, genre, vraiment, on la vit, quoi, au quotidien.
Oui.
On choisit son bouquin, tous les chemins sont bons, hein. Les mecs qui ont traversé quelques milliers d'années, quoi, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il n'y a pas de mystère, hein. Mais ce quelque chose, il ne faut pas l'apprendre, il faut l'expérimenter.
Absolument.
Et ça veut dire le vivre au quotidien.
Et l'écriture, c'est une expérience.
Oui, certainement.
Mais c'est sûr, je peux le dire. Je vous remercie.
Sans problème.
Attendez, je passe le micro.
Oui.
Ça va, vous m'entendez?
Uh-huh.
Je veux choisir de ne pas faire le même métier que mes parents, de ne pas aller dans la même voie. Après, je veux choisir ma mort. Enfin, il y a beaucoup, on sent énormément l'envie de choisir le moment, l'endroit. Est-ce qu'avec le yoga ou la philosophie dans laquelle vous baignez maintenant, vous avez laissé un petit peu plus de place à peut-être, je ne choisirai pas ceci, je ne choisirai pas cela, mais ce n'est pas grave. Enfin,
je sais ce que je choisirai pas. Je sais pas ce que je choisirai, mais je sais ce que je ne ferai pas. À peu près, hein, j'en ai les vagues contours. Et un truc, par contre, que je voudrais faire et que je suis pas sûr que je le ferai et que si je le fais pas, je crois que franchement, je regretterai, quoi. C'est quoi? Eh ben, c'est... Tu sais, toi. C'est partir sans rien. Partir comme ça, marcher quoi. Droit devant moi, marcher, puis voilà, découvrir les gens.
Partir seul.
Ouais, moi c'est toujours seul. Hein.
Faire un bout de chemin.
Ouais, marcher comme ça, presque sans rien quoi. Je crois que la vérité de tout chacun est dans le dénuement. Dans le dénuement. Et puis rencontrer les autres, tout simplement. C'est un des trucs que j'aime depuis que je suis sorti ça. Avant, je ne rencontrais pas les gens, ou que les gens de mon monde, d'un certain monde. Et moi-même, j'avais peu de capacité d'échange avec les autres. J'échangeais pas du tout, hein. C'était comme je disais, puis c'est tout. Mais bon, voilà, c'était pas terrible. Et ça, le fait de l'échange, c'est devenu pour moi vraiment, c'est vachement bien, quoi. Et c'est un truc que j'ai appris dans les débats. Ça, bon, j'ai appris avant, bien sûr, l'échange. Mais dans les débats, ce que j'ai appris, c'est que, en fait, il y a plein de gens comme vous, enfin, je vous le souhaite, qui n'avaient pas le même chemin de vie que moi, quoi. En fait, je me suis aperçu au fil des débats qu'on était vachement plus proche au fond, au profond, au vrai de chacun. Plus proche les uns des autres, vous de moi et moi de vous, que je ne l'aurais cru au premier abord. Vous voyez, chacun reste un peu enfermé dans des a priori, des choses comme ça. Mais au profond du profond, par-delà tous les masques ou les conneries, quoi. On est tous pareils, vraiment, quoi. Et ça, c'est vachement bien. On est tous pareils, mais en même temps, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est découvrir comment les autres fonctionnent. Alors ça, c'est un vrai régal. Ouais, chacun a son petit truc, en fait. On a chacun notre petit monde dans la tête, ce qu'on pense, etc. Ce qui compte, c'est quoi? Mais tout le monde a raison, quoi. Mais ce qui compte, c'est d'y croire vraiment. Faut pas que ça soit du style. Hein. Faut d'y croire vraiment à son truc. Aussi délirant que ce soit, c'est bon. Si on y croit vraiment. Vraiment. Et ça, c'est bien. Ça, j'adore ça. C'est comme regarder un spectacle. là. Vraiment. Je sais pas, parce que moi je parle comme ça bien, et puis c'est tout quoi. Les sujets que j'aime pas aborder ou. Ah non, non. Ah, je sais pas. Les sujets qu'on peut aborder. Moi, tout ce que vous voulez parler, il n'y a aucun problème quoi.
Encore une dernière petite question peut-être.
Oui, non, je voulais juste. Je vais être très rapide. On parle de la mort, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de parler des morts? Parce que moi, j'ai aussi vécu des épreuves difficiles dans ma vie et j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis morte à moi-même et qu'à chaque fois, il y a eu une renaissance, quoi.
C'est le principe de la vie.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça, parce qu'on dit la mort, mais moi, je dirais les morts, quoi.
Oui, en fait, ouais. La vie, c'est ça. Hein.
Ouais.
C'est une succession de deuils, de petits deuils, de grands deuils qui nous apprend, qui nous prépare au grand deuil, au deuil de nous-mêmes. C'est ça, bien sûr.
On apprend, vivre, c'est apprendre à mourir.
Ouais, au fil de la vie, en faisant des tas de deuils, deuil des autres, de petites choses de nous-mêmes, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça, on apprend. Et une dernière pour la route. Maintenant, là, j'écris, je vous conseille tous d'acheter un livre qui va sortir, qui s'appelle L'Obligé, une histoire d'amour dans le monde des voyous. Très bonne histoire. Et je joke, hein.
Merci beaucoup.